Vous écoutez
RMC. Face à face.
Apolline de Malherbe.
Il est 8h33 sur RMC et BFM TV. Bonjour général.
Bonjour.
Général Jean-Paul Paloméros, vous êtes l'ancien commandant suprême de l'OTAN. On va revenir évidemment sur la situation de Kherson. Les soldats ukrainiens ont repris la ville de Kherson, principale ville du sud de l'Ukraine qui avait été envahie par les Russes depuis le début de la guerre. Est-ce que la reprise de Kherson, c'est le tournant crucial que l'on pouvait attendre? Est-ce que c'est un tournant décisif dans le rapport de force?
Non, je ne pense pas. C'est une très belle victoire, c'est une victoire importante pour les Ukrainiens qui montrent qu'ils sont capables de reprendre leur territoire, de protéger leur population. Mais pourquoi ce n'est pas une victoire décisive? D'abord parce que les Russes se sont repliés en bon ordre. Ils ont réussi quelque part leur repli stratégique.
C'est une victoire sans combat.
Oui, combats,
avec des combats qui ont précédé, mais
les combats ont eu lieu avant et les Russes ont été amenés à cette alternative. Ils l'ont choisi et ils ont bien fait, en quelque sorte, parce qu'ils ont réussi à replier leurs forces et donc à économiser leurs forces.
Ils se savaient acculés. Les Ukrainiens auraient gagné.
Ah oui.
Si le combat, oui, si les affrontements.
Ils se seraient fait piéger dans Kherson, etc. Donc on avait un peu le syndrome Mariupol, si je puis m'exprimer ainsi. Donc ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, les Russes contrôlent toujours à peu près 60% de la province de Kherson, y compris au nord, et en particulier la centrale de Zaporijjia, voire le fameux barrage de Kharkovka. Et puis, troisième élément, finalement, le Dniepr aujourd'hui constitue à la fois...
Qui est le fleuve,
qui sépare les forces russes maintenant des forces ukrainiennes, constitue un obstacle, peut-être pas infranchissable, à peu près tous les ponts ont été minés et ont sauté, mais surtout une nouvelle frontière. Et le risque, en sens, c'est que cette nouvelle frontière rentre vraiment face office de frontière à terme et que ça puisse être... que les Russes y tiennent.
Si on est tout à fait réaliste, général, ça veut dire que la raison pour laquelle les Russes ont fini par admettre leur échec et par se replier, par repartir de l'autre côté, c'est précisément à cause de ce fleuve qui est un fleuve très large, et ils avaient crainte que se retrouver piégés et perdre beaucoup de vies, ne pouvant pas en effet traverser ce fleuve. Le problème, c'est que si on essaie de tirer le scénario et les plans de bataille des prochains jours. Ce fleuve, c'est aussi une limite pour les Ukrainiens. Ça veut dire qu'en fait, Kherson, c'est le bout de ce qu'ils peuvent faire. S'ils veulent aller au-delà, alors ça demande des moyens considérables.
Disons qu'il faudra qu'ils emploient, on peut penser qu'il y ait dans les jours à venir des échanges d'artillerie, des choses comme ça. C'est sûr que la région va être très instable. Donc il faudra qu'ils aient, j'imagine qu'ils ont une vision stratégique des choses, ils l'ont eu depuis le début de ce conflit, et qu'ils pensent plutôt à contourner un petit peu peut-être cet obstacle. Si on regarde bien la géographie, ils peuvent imaginer de revenir par le nord-est, ce qui rejoint un petit peu toutes les perspectives aussi.
Et on voit d'ailleurs les cartes
du Donbass,
sur BFM TV.
Donc on voit bien que tout est lié, hein. Donc la maîtrise, ou en tout cas la résistance dans le Donbass, conditionne leur aptitude à pouvoir éventuellement revenir par le nord-est pour faire pression sur ces forces qui sont maintenant du côté oriental.
Alors vous dites avec regret, général Jean-Paul Paloméros, que Kherson n'est pas forcément le tournant décisif, c'est-à-dire que ce n'est pas forcément le moment qui va entraîner une défaite ou une défaite rapide de la Russie. Pour autant, l'une des raisons pour lesquelles on se dit que ça reste un tournant, c'est qu'il y a encore quelques jours, quelques semaines, Kherson, ça paraissait impensable que les Ukrainiens reprennent Kherson. À l'inverse, ils avaient même redouté que Kherson ne soit une ville martyre, où il y aurait une forme de jusqu'au boutisme. Qu'est-ce qui a fait que tout d'un coup, les Russes ont fini par abandonner Kherson?
Je crois que d'abord, les Ukrainiens ont agi avec beaucoup d'intelligence. Ils ont progressivement entouré cette ville. Ils ont bien identifié les fragilités, qui sont en particulier toute la filière logistique. Toute la logistique était associée avec le maintien des troupes russes à Kherson. Et ils ont agi là-dessus. Et c'était une très bonne stratégie.
Est-ce que Vladimir Poutine peut assumer ou reconnaître cette défaite?
Non, il la reconnaîtra pas. Il laisse le soin au chef militaire d'expliquer qu'il s'agit d'un retrait stratégique. et il essaiera de saisir une autre opportunité pour rebondir de manière différente.
Est-ce que ce moment quand même de faiblesse peut apparaître comme un bon moment pour négocier, pour reprendre des pourparlers diplomatiques? Les Américains, ils parlent, je cite, d'une fenêtre d'opportunité. Est-ce que vous qui étiez à la fois du côté de la guerre, commandant suprême de l'OTAN, mais aussi justement de la paix et de la négociation, est-ce que vous estimez que cette petite fenêtre d'opportunité, comme disent les Américains, existe?
Non, je ne crois pas. Les conditions ne sont pas réunies aujourd'hui. Je veux dire, Monsieur Zelensky ne peut pas accepter. On parlait de frontières naturelles avec le Dniepr. Monsieur Zelensky, en l'état, ne peut pas accepter cette frontière-là. D'un autre côté, les Russes, ils peuvent, à la limite, eux, satisfaire. Ça serait une réduction par rapport aux ambitions initiales de Monsieur Poutine. Mais pourquoi pas? Ils sortiraient malgré tout grandis. Si la guerre s'arrêtait aujourd'hui, les Russes auraient gagné sensiblement. Ils auraient gagné du terrain, ils auraient gagné des terres riches, etc. Donc, ils auraient privé une partie, l'Ukraine d'une partie d'accès à la mer d'Azov, voire à la mer Noire. Par contre, les ambitions folles de M. Poutine initiales, non, elles ne sont pas remplies, bien sûr. D'ailleurs, Kherson, c'est aussi une manière pour les Ukrainiens d'arrêter l'expansion russe vers l'Est. On se souvient que Mykolaïv était sous la pression et qu'on pensait à Odessa. Donc ça, c'est quand même le côté positif, si vous voulez, de la prise de Kherson.
Oui, parce qu'on vous sent quand même assez pessimiste, en tout cas, sur la capacité de cette guerre à s'arrêter rapidement.
Quand on regarde tous les éléments, alors d'abord, il faut rappeler ces chiffres exorbitants qui sont de sources américaines. On n'a pas les moyens vraiment de les contrôler, mais 100 000 tués et blessés d'un côté, militaires, 100 000 tués et blessés de l'autre côté. Enfin, une sorte d'équilibre dans la terreur, dans la violence. On se dit, il faut que ce soit les Russes ou les Ukrainiens ont besoin de reconstituer leurs forces.
Est-ce que c'est au fond une victoire par épuisement?
Non, c'est mieux qu'une victoire par épuisement. C'est une victoire de l'intelligence, des Ukrainiens qui se sont préparés. Et ça, il faut le souligner. Les Ukrainiens, en 2014, quand ils ont subi ce revers, quand la Crimée a été annexée, depuis 2014, ils ne cessent de réfléchir à ce qui va se passer. Parce que eux savaient qu'un jour ou l'autre, Poutine reviendra. Il n'y avait pas de raison qu'il s'arrête là. Et donc, ils se sont préparés. Ils ont préparé leurs forces. D'ailleurs, l'OTAN y a contribué et on en est très fiers.
On va revenir sur la situation de l'OTAN et sur l'avenir aussi de l'OTAN. Mais encore un mot sur la menace russe. Parce que samedi, l'ancien président russe Dmitri Medvedev a à nouveau agité la menace nucléaire. Je le cite, pour des raisons qui sont évidentes pour tous les gens raisonnables, la Russie n'a pas encore fait usage de tout son arsenal de moyens de destruction possible. Et Medvedev qui rajoute, il y a un temps pour tout. Comment est-ce que vous analysez cette prise de parole?
Je crois que M. Medvedev s'est classé dans le clan des extrémistes une fois pour tout. Ça doit être un positionnement, à mon avis, qui est plus politique qu'autre chose, parce qu'il n'était pas sur ce ton-là quand il était lui-même au pouvoir. Mais ce n'est pas du tout le ton que donne ni M. Poutine, ni ses généraux, ni ses stratèges. Donc, il faut laisser à un politique le soin de faire une déclaration politique. Eh bien, moi, j'ai l'impression que, si vous voulez, cette dimension nucléaire, elle a repris sa place et sa dimension stratégique, et c'est bien comme ça.
Que ça reste une arme stratégique.
Absolument.
Et non pas une arme concrètement utilisée.
On ne sorte pas le nucléaire à tout bout de champ. Le jour où, malheureusement, on sortirait le nucléaire, ça serait irréversible.
Général Jean-Paul Paloméros, vous évoquiez à l'instant l'OTAN et la fierté aussi de l'OTAN à prendre sa part, mais avec toujours cette limite qui est le soutien oui, le soutien actif non.
Le soutien des pays occidentaux, même au-delà de l'OTAN, il est actif, oui, il faut qu'il le soit, parce que les Ukrainiens tiennent grâce à ce soutien depuis le départ. Donc, il faut que ça continue. Il y a aucun doute là-dessus. D'un autre côté, l'OTAN et aucun des pays de l'OTAN n'est engagé, n'a des forces engagées sur le terrain. Donc, c'est la limite, c'est un petit peu cet équilibre qui a été trouvé.
L'OTAN qui a été réveillé, en quelque sorte, parce que quand on se souvient, et c'est vraiment aussi là-dessus que je veux vous entendre, je rappelle, Jean-Paul Paloméros, que vous êtes ancien commandant suprême de l'OTAN, il y a 3 ans, le 7 novembre 2019, Emmanuel Macron jugeait l'OTAN, je cite, en état de mort cérébrale. Comment est-ce que vous jugeriez l'état de l'OTAN aujourd'hui?
Écoutez, je crois que le meilleur juge, ce sont les pays qui appartiennent à l'OTAN. Vous posez la question aujourd'hui aux pays baltes, à la Pologne, à la Roumanie. Ils sont très heureux d'appartenir à une alliance qui est forte, qui est crédible et qui est défensive, qui est une alliance collective depuis 1949. Je crois que les Français comprennent encore mieux aujourd'hui que jamais combien c'est important d'appartenir à une alliance. La défense de la France, elle repose sur deux piliers. Ses intérêts vitaux, c'est la dissuasion nucléaire, ça depuis les années 60, le général de Gaulle. Et de l'autre côté, cette appartenance à une alliance défensive. C'est là qu'il faut repositionner le rôle de la France. Donc, l'OTAN s'est endormie, non. L'OTAN s'est adaptée. C'était l'essentiel de mon travail à la tête de la transformation de l'OTAN. C'était de préparer l'avenir. Et on l'a fait en particulier avec les Ukrainiens et avec d'autres partenaires. Préparer les capacités futures, savoir comment collectivement améliorer ses capacités face aux menaces classiques, mais aussi aux menaces modernes. La cybersécurité, tout ce qui se passe dans l'espace numérique, la guerre de l'information,
c'est ça la transformation. Et là, vous avez le sentiment que le travail a été suffisant. Enfin, je reprends sur la question de la cybersécurité. Il n'y a pratiquement pas une semaine désormais, en tout cas sur le territoire national, sans parler même de nos voisins, où il n'y ait pas une attaque nucléaire, une cyberattaque au minimum suspecte, c'est-à-dire sans savoir forcément que les Russes sont directement derrière. Il y a parfois des institutions, il y a des départements, il y a des hôpitaux, il y a des entreprises qui sont attaquées, et on a un peu l'impression que là-dessus, on n'a pas les armes.
On a les armes, on a des armes, simplement on est dans une guerre qui est asymétrique. Elle est asymétrique dans la mesure où, jusqu'à présent, la partie offensive, agressive, prend toujours le pas en quelque peu. Vous pouvez tracer, mettre des barrières, des pare-feux, il y a des failles. Donc comment faire ? D'abord, se préparer ensemble, et c'est le lieu de la coopération. L'Europe a un rôle à jouer, puisque ce sont ses intérêts vitaux qui sont en cause. Et puis ensuite, réfléchir aussi à des moyens de rétorsion vis-à-vis de groupes dont on sait parfaitement qu'ils sont sponsorisés par nos amis chinois ou par les Russes.
Donc, on sait qui est derrière.
Et d'ailleurs,
je
remarque, bien sûr, on s'est tracé et on s'est authentifié. Mais je remarque que le président Biden a eu une attitude très, très offensive depuis sa prise de pouvoir, où il a affiché très clairement la couleur vis-à-vis, par exemple, de M. Poutine. C'était à sa première réunion. Il a dit, voilà la ligne rouge. Si vous attaquez des infrastructures critiques vitales, nous, on aura les moyens de répondre. Soit en utilisant les mêmes armes, soit en utilisant d'autres moyens.
Et pourquoi on ne fait pas ça, nous ? Pourquoi on ne dit pas ça ? Je veux dire, quand on voit qu'il y a des attaques, notamment sur des hôpitaux ou sur des entreprises stratégiques, pourquoi est-ce que nous, on ne dit pas, attention, c'est considéré comme un acte de guerre ?
Je pense qu'on est en train d'évoluer en la matière. Les compétences, on les a, c'est clair, et c'est un vrai sujet, d'ailleurs, ces compétences nécessaires, indispensables dans ces nouveaux champs de confrontation, qui sont aussi des champs de compétition économique.
Mais est-ce qu'on peut imaginer ce que vous disiez à l'instant à propos de Joe Biden, Jean-Paul Pomerantz, c'est-à-dire cyberattaque, vaut acte de guerre, et donc peut entraîner une réponse militaire, une réponse avec des armes?
Eh bien, écoutez, en 2014, j'étais donc à la tête du commandement de la transformation de l'OTAN. Lors du sommet du Pays de Galles, les chefs d'État, sur notre proposition, ont décidé que, effectivement, une attaque cyber contre un des pays de l'OTAN qui aurait des effets stratégiques, peut-être contre des intérêts vitaux, pourrait être considérée comme un élément déclenchant la réponse au travers de l'article 5, c'est-à-dire l'article de défense collective. Donc vous voyez, on est strictement dans cette logique.
Revenons justement à l'OTAN, général Jean-Paul Pomerantz. L'une des manières de voir peut-être que l'OTAN est en effet réveillée, comme vous disiez, c'est de voir que certains pays souhaitent y adhérer. Alors il y a l'Ukraine, bien sûr, mais je la mets à part parce que ça ne peut pas être le cas, puisque aucun pays ne peut adhérer s'il est lui-même déjà engagé dans une guerre. Mais il y a aussi la Suède et la Finlande. Où est-ce qu'on en est de l'adhésion de ces deux pays ou de la candidature de ces deux pays ?
Il faut bien prendre en compte le fait que la Suède et la Finlande, de très longue date, maintenant, ils ont rejoint l'Union européenne, ces deux pays, donc ils ne sont pas non-alignés, comme on le dit de temps en temps. Ils sont alignés au sein de l'Union européenne. Et puis, ça fait très longtemps que ce sont des partenaires extrêmement proches, et en particulier depuis 2014, où ils ont obtenu un statut très particulier. Et d'ailleurs, on les a fait participer à des exercices majeurs de l'OTAN, y compris des exercices de défense collective. Donc, il s'agissait pour eux de franchir le pas politique.
Mais il y a une chance que cette adhésion, elle aboutisse et qu'elle aboutisse rapidement ?
Ah ben, une chance, oui. Enfin, elle est probable. Non, évidemment, il faut que chacun des pays, on le voit.
La Turquie, on sent, met des conditions de plus en plus compliquées.
Voilà, on sait que M. Erdogan sera exigeant, comme il l'est dans tous les domaines. mais il semble que ça prenne une bonne voie. C'est naturel. Ça va donner une cohérence géostratégique à cette partie septentrionale nordique de l'Union européenne et de l'OTAN.
Général, je voudrais qu'on dise un mot aussi des comptes publics et des sous pour l'armée française. Vous l'avez peut-être entendu la semaine dernière à ce même micro, le général Pierre Devilliers qui disait que les efforts étaient insuffisants. Gabriel Attal lui a répondu ici même jeudi, lui qui est ministre des comptes publics. Écoutez.
Aujourd'hui, c'est plus 33%, 33%, 3 milliards d'euros d'augmentation par an. On réarme notre ministère des Armées. Quels sont nos besoins aujourd'hui au 21e siècle? Voilà, le président l'a dit. Continuer à investir sur la dissuasion nucléaire, la cyberdéfense et la résilience de notre pays et les réserves. Et on part de ces besoins et ensuite, on me demande à moi, ministre du Budget, de mettre les moyens nécessaires pour accomplir ces objectifs. Et je peux vous dire que c'est ce
qu'on fait. Vous n'allez pas rogner. C'est vous n'allez pas dire, il faut faire moins.
Évidemment que non. Vous savez que là, il y a une augmentation de 3 milliards d'euros. C'est inédit. Quand on regarde ces dernières années, il n'y a pas eu de marche et d'augmentation aussi forte sur une année.
Général, je vais vous poser la même question qu'au général Pierre Devilliers. Est-ce que c'est suffisant?
Il faut remettre ça dans le contexte. En 2017, Monsieur Macron devient président et il a un programme, effectivement, de réinvestissement dans la défense. Ce programme, objectivement, il a été suivi. Maintenant, la question est la suivante. La France a des ambitions, elle a des ambitions mondiales, elle a aussi des devoirs, des territoires d'outre-mer, des zones d'exclusivité économique, et puis son rôle au Conseil de sécurité, comme membre permanent du Conseil de sécurité. C'est un rôle qui est aussi historique, qui l'amène à s'engager à côté de nos amis africains, qui l'amène à s'engager dans des opérations, avec un certain succès au plan militaire. Même un vrai succès. Donc, la question est de savoir si maintenant, le contexte actuel où on voit vraiment cette résurgence qui était annoncée se matérialiser, si cet effort, qui était quand même assez considérable, est suffisant. Et c'est ça la question de la loi de programmation à venir, que doivent se poser nos élus, qu'on doit se poser tous ensemble, alors que d'autres pays, effectivement, l'Allemagne, par exemple, vient de décider de mettre 100 milliards sur 5 ans en plus de son budget. Les Anglais ont aussi fait des efforts conséquents.
Quasiment donc, du même ordre.
Donc, il est probable qu'il faille réviser à la hausse ce besoin. Maintenant, il reviendra effectivement au président de la République, aux élus, de définir quel est le juste équilibre. Est-ce que l'effort actuel, qui est sensible, et les chefs d'état-major le reconnaissent, c'est une loi de construction dans laquelle ils sont, et c'est très
mais
bien
mais on est, c'est vrai, très largement derrière les efforts anglais ou allemands, par exemple.
Il faut remettre en perspective.
Alors, du côté de l'Allemagne, ils avaient beaucoup de retard, en quelque sorte. Ils ne sont pas du tout au même niveau que nous.
Le tout est de savoir dans quel domaine ils vont dépenser. Parce que le budget de la défense, si on prend celui des États-Unis, qui est 20 fois supérieur à peu près à notre budget, alors que leur PIB est 10 fois supérieur, ça veut dire qu'il y a quand même un problème. C'est-à-dire que le budget de la défense, il va bien au-delà de l'équipement des forces armées. Ça, il faut le comprendre. Il irrigue aussi la recherche, l'innovation. Et je pense que les Allemands prennent cette voie.
Est-ce que la question, c'est pas aussi l'effort financier global à la fois du budget de l'armée, mais aussi du soutien à l'Ukraine? On sent que l'opinion américaine, par exemple, l'opinion publique américaine, commence à basculer, à mettre la pression, y compris dans le camp démocrate sur Joe Biden, en lui disant, voilà, vous aidez beaucoup, vous mettez beaucoup d'argent sur la table, on peut pas forcément continuer à ce point. Est-ce que c'est l'une des raisons peut-être pour lesquelles la France a dit que lors de la conférence de Paris au mois prochain, il y aurait plus d'aide civile que militaire?
Ce qui est clair, c'est que les Ukrainiens ont besoin d'une aide globale. Leur économie a été tellement chamboulée, massacrée en quelque sorte par M. Poutine, qu'ils ont besoin qu'on reconstitue une partie de cette économie. Et c'est ça l'enjeu. Et évidemment, apporter des moyens militaires sans apporter ces moyens qui assurent la...
Ce ne sera pas l'un ou l'autre, il faudra les deux.
C'est là que l'effort est considérable et qu'il faut bien le mesurer. Si on souhaite que l'Ukraine, qui est vraiment en première ligne pour la liberté, pour la démocratie et pour le respect des droits tels qu'il est défini dans la Charte des Nations Unies, si on souhaite que ce pays européen reste souverain, c'est cet effort qu'il faut fournir. Et je ne sens pas aux États-Unis, bon, il est de bon ton de dire qu'il y a une faiblesse, je ne sens pas du tout cette faiblesse aux États-Unis aujourd'hui. Même dans la campagne actuelle des midterms, on n'a pas vraiment senti ça. Ça peut venir un jour, il peut y avoir un phénomène de lassitude.
Mais pour l'instant, les populations occidentales continuent à soutenir et à soutenir l'effort qui est apporté auprès de l'Ukraine. Merci, général Jean-Paul Paloméros, ancien commandant suprême de l'OTAN, d'être venu répondre à mes questions. Il est 8h52 sur RMC BFM TV.